Grandeur et chute des capitaux étrangers. Quant aux capitaux étrangers, on constate qu'ils ont suivi une évolution très singulière au Royaume-Uni et en France, à la mesure de l'histoire mouvementée du colonialisme et des deux principales puissances coloniales de la planète au cours des trois derniers siècles. Les actifs nets possédés dans le reste du monde par ces deux pays n'ont cessé de progresser au XVIIIe et XIXe siècle, pour atteindre des niveaux extrêmement élevés à la veille de la Première Guerre mondiale, avant de s'effondrer littéralement entre 1914 et 1945, et de se stabiliser à des niveaux relativement faibles depuis lors, comme nous l'avons vu précédemment. Les possessions étrangères commencent à prendre de l'importance dès la période 1750-1800, comme l'illustrent les investissements antillais de Sir Thomas, dont nous parle Jane Austen dans Mansfield Park. Mais cela reste modeste. Au moment où la romancière écrit son récit, en 1812, le stock d'actifs étrangers ne représente, d'après les sources disponibles, qu'à peine 10% du revenu national du Royaume-Uni, soit 30 fois moins que la valeur des terres agricoles, plus de 3 années de revenu national. Pas étonnant donc que les personnages de Jane Austen vivent surtout de leurs propriétés rurales. C'est au cours du XIXe siècle que l'accumulation d'actifs britanniques dans le reste du monde prend des proportions considérables, inconnues dans l'histoire et jamais dépassées à ce jour. À la veille du premier conflit mondial, le Royaume-Uni est à la tête du premier empire colonial du monde et possède en actifs étrangers l'équivalent de près de 2 années de revenu national, soit 6 fois plus que la valeur totale des terres agricoles du royaume, qui à ce moment-là n'est plus que de l'ordre de 30% du revenu national. On voit à quel point la structure de la fortune s'est totalement transformée depuis Mansfield Park, et on espère que les héros de Jane Austen et leurs descendants ont su se reconvertir à temps et suivre les traces de Sir Thomas, en réinvestissant dans des placements internationaux une partie de leur rente foncière. À la belle époque, le capital investi à l'étranger rapporte des profits, dividendes, intérêts, loyers, avec un rendement moyen de l'ordre de 5% par an, si bien que le revenu national dont disposent les Britanniques est chaque année de l'ordre de 10% plus élevé que leur production intérieure, ce qui permet de faire vivre un groupe social tout à fait significatif. La France, à la tête du deuxième empire colonial mondial, est dans une situation à peine moins enviable. Elle a accumulé dans le reste du monde des actifs étrangers équivalent à plus d'une année de son revenu national, si bien que ce dernier est chaque année environ 5% plus élevé que sa production intérieure dans les années 1900-1910. C'est l'équivalent de la totalité de la production industrielle des départements du Nord et de l'Est du pays, que la France reçoit du reste du monde sous forme de dividendes, intérêts, royalties, loyers et autres revenus du capital versés en contrepartie de ses possessions extérieures. Il est important de bien comprendre que ces très importants actifs étrangers nets permettent au Royaume-Uni et à la France d'être en situation de déficit commercial structurel à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Entre 1880 et 1914, ces deux pays reçoivent du reste du monde des biens et services d'une valeur nettement supérieure à ce qu'ils exportent eux-mêmes, leur déficit commercial est en moyenne compris entre 1 et 2 points de revenu national au cours de cette période. Cela ne leur pose aucun problème, puisque les revenus du capital étranger qu'ils reçoivent du reste du monde dépassent les 5 points de revenu national. Leur balance des paiements est donc en très fort excédent, ce qui leur permet d'accroître leur position patrimoniale extérieure année après année. Autrement dit, le reste du monde travaille pour accroître la consommation des puissances coloniales, et ce faisant, le reste du monde devient de plus en plus fortement endetté vis-à-vis de ces mêmes puissances coloniales. Cela peut sembler choquant, mais il est essentiel de réaliser que l'objectif même d'accumuler des actifs étrangers au moyen d'excédents commerciaux ou d'appropriations coloniales est précisément de pouvoir avoir ensuite des déficits commerciaux. Cela n'aurait aucun intérêt d'avoir éternellement des excédents commerciaux. L'intérêt d'être propriétaire, c'est précisément de pouvoir continuer de consommer et d'accumuler sans avoir à travailler, ou tout du moins de pouvoir consommer et accumuler davantage que le seul produit de son travail. Il en va de même à l'échelle internationale à l'époque du colonialisme. À la suite des chocs cumulés des deux guerres mondiales, de la crise des années 1930 et des décolonisations, ces énormes stocks de placements étrangers vont totalement disparaître. Dans les années 1950, la France, comme le Royaume-Uni, se retrouve avec des positions patrimoniales nettes assez proches de zéro vis-à-vis du reste du monde. Ce qui veut dire que les actifs possédés à l'étranger sont tout juste suffisants pour compenser les actifs détenus par les autres pays dans les deux ex-puissances coloniales. En première approximation, cette situation n'a guère évolué depuis un demi-siècle. Des années 1950 aux années 2010, les actifs étrangers nets détenus par la France et le Royaume-Uni ont été parfois légèrement positifs, parfois légèrement négatifs, mais dans tous les cas très proches de zéro. Tout du moins par comparaison au niveau observé précédemment. Pour finir, si l'on compare la structure du capital national au XVIIIe siècle et en ce début de XXIe siècle, on constate que les actifs étrangers nets jouent un rôle négligeable dans les deux cas et que la véritable transformation structurelle sur longue période concerne le remplacement progressif des terres agricoles par le capital immobilier et professionnel, pour une valeur totale du stock de capital approximativement inchangé relativement au revenu national. Revenus et patrimoine, quelques ordres de grandeur. Pour résumer ces transformations, on peut utiliser les ordres de grandeur du monde d'aujourd'hui. Actuellement, le revenu national est de l'ordre de 30 000 euros par an et par habitant en France comme au Royaume-Uni. Et le capital national s'établit dans les deux cas autour de 6 années de revenus, soit environ 180 000 euros par habitant. Dans les deux pays, les terres agricoles ne valent presque plus rien, quelques milliers d'euros par habitant tout au plus. Et le capital national se partage grosso modo en deux moitiés presque parfaitement égales. En moyenne, chaque habitant possède pour environ 90 000 euros de capital logement, qu'il utilise pour son propre usage ou loue à d'autres, et pour environ 90 000 euros d'autres capitaux intérieurs, principalement des capitaux investis dans les entreprises au travers de placements financiers. Supposons que l'on revienne 3 siècles en arrière et que l'on applique la structure du capital national en vigueur autour de 1700, mais en conservant fictivement les mêmes montants moyens, 30 000 euros pour le revenu, 180 000 euros pour le patrimoine, que ceux en vigueur actuellement. Notre Français ou Britannique représentatif posséderait alors pour environ 120 000 euros de terres agricoles, 30 000 euros de capital logement et 30 000 euros d'autres capitaux intérieurs. Évidemment, certains Français ou Britanniques, par exemple les héros des romans de Jane Austen, John d'Archwood avec le domaine de Norland, Charles Darcy avec celui de Pemberley, possédaient des centaines d'hectares de terres, l'équivalent de dizaines ou de centaines de millions d'euros de patrimoine, alors que beaucoup d'autres ne possédaient rien du tout. Mais ces moyennes permettent néanmoins de se faire une idée un peu plus concrète de la façon dont la structure du capital national s'est totalement transformée depuis le XVIIIe siècle, tout en conservant approximativement le même niveau relativement au flux annuel de revenus. Imaginons maintenant notre Britannique ou Français moyen à la Belle Époque, vers 1900-1910, toujours avec un revenu moyen de 30 000 euros et un patrimoine moyen de 180 000 euros. Au Royaume-Uni, les terres agricoles ne représentaient déjà plus grand-chose, moins de 10 000 euros par Britannique, contre 50 000 euros pour le logement, 60 000 euros pour les autres capitaux intérieurs et près de 60 000 euros de placements étrangers. En France, l'équilibre était comparable, sauf que les terres agricoles représentaient encore entre 30 000 euros et 40 000 euros par habitant, à peu près autant que les placements étrangers. Dans les deux pays, les actifs étrangers ont pris une importance considérable. De nouveau, il va de soi que tout le monde ne possédait pas des actions du canal de Suez ou des emprunts russes. Mais ces moyennes, calculées sur l'ensemble de la population, en mélangeant donc beaucoup de personnes, ne possédant aucun actif étranger et une minorité détenant des portefeuilles importants, permettent justement de prendre la mesure de la masse énorme de richesses accumulées dans le reste du monde que représentaient alors les capitaux étrangers détenus par la France et le Royaume-Uni. Richesse publique, richesse privée. Avant d'étudier plus précisément la nature des chocs subis par les patrimoines au cours du XXe siècle et les raisons du redressement observé depuis la Seconde Guerre mondiale, il est utile d'introduire maintenant dans l'analyse la question de la dette publique, et plus généralement, la question du partage du capital national entre capital public et capital privé. Car l'on oublie trop souvent en ce début du XXIe siècle, où les États des pays riches ont surtout tendance à accumuler des dettes, que le bilan du secteur public peut également comporter des actifs. Par définition, ce partage entre capital public et capital privé ne change rien ni au niveau global, ni à la composition du capital national dont nous venons de retracer l'évolution. Il n'en reste pas moins que cette division des droits de propriété entre puissance publique et individus privés revêt une importance politique, économique et sociale considérable. Commençons donc par rappeler les définitions introduites dans le chapitre 1. Le capital national ou patrimoine national est la somme du capital public et du capital privé. Le capital public est défini comme la différence entre les actifs et les passifs de l'État et des diverses administrations publiques, de même que le capital privé est la différence entre les actifs et les passifs des individus privés. Pour le secteur public comme pour le secteur privé, le capital est toujours défini comme un patrimoine net, c'est-à-dire l'écart entre la valeur de marché de ce que l'on possède, les actifs, et de ce que l'on doit, les passifs, c'est-à-dire les dettes. Concrètement, les actifs publics prennent deux formes. Ils peuvent être non financiers, il s'agit essentiellement des bâtiments publics utilisés pour l'administration et les services publics, principalement dans l'éducation et la santé, écoles, lycées, universités, hôpitaux, etc., ou financiers, quand l'État possède des participations financières dans des entreprises, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires, qu'il s'agisse de sociétés implantées dans le pays en question ou à l'étranger, par exemple dans le cadre de fonds souverains, ainsi que l'on appelle depuis quelques années les fonds gérant les portefeuilles financiers détenus par les États qui en ont les moyens. En pratique, la frontière entre actifs non financiers et financiers peut être mouvante. Par exemple, quand l'État français transforme France Télécom puis La Poste en société par action, on se met à compter sa participation dans les nouvelles sociétés comme actif financier, alors que la valeur des bâtiments et des équipements exploités par l'administration des postes et télécommunications était auparavant comptabilisée comme actif non financier. Au début des années 2010, la valeur de la totalité des actifs publics, non financiers et financiers, est estimée à près d'une année de revenu national au Royaume-Uni et un peu moins d'une année et demie en France. Compte tenu du fait que les dettes publiques représentent environ une année de revenu national dans les deux pays, cela signifie que le patrimoine public net, ou capital public, est très proche de zéro dans les deux pays. D'après les dernières estimations officielles, réalisées par les instituts statistiques et les banques centrales de chaque pays, le capital public net est presque exactement nul au Royaume-Uni et d'à peine 30% du revenu national en France, soit 20 fois moins que le stock de capital national, voire tableau 3.1. Autrement dit, si la puissance publique dans ces deux pays décidait de mettre en vente tous ses biens pour rembourser immédiatement toutes ses dettes, il ne lui resterait rien du tout outre-Manche et peu de choses en France. Là encore, la précision de telles estimations ne doit pas faire illusion. Même si chaque pays fait de son mieux pour appliquer les concepts et les méthodes standardisées établies sous l'égide des organisations internationales et des Nations Unies, la comptabilité nationale n'est pas et ne sera jamais une science exacte. L'estimation du total des dettes publiques ou des actifs financiers publics ne pose pas de problème majeur. En revanche, il n'est pas facile de déterminer de façon parfaitement précise la valeur de marché de bâtiments publics, écoles, hôpitaux ou d'infrastructures de transport, réseaux ferrés et routiers notamment, qui ne sont pas vendus régulièrement. Les calculs établis doivent en principe s'appuyer sur les prix observés pour des ventes similaires effectuées dans le passé récent, mais de tels points de repère ne sont pas toujours très fiables, d'autant plus que les prix de marché sont bien souvent volatiles et fébriles. Ces estimations doivent être considérées comme des ordres de grandeur et non des certitudes mathématiques. En tout état de cause, il ne fait toutefois aucun doute que le patrimoine public net se situe actuellement à des niveaux faibles dans ces deux pays, et en particulier ne représente pas grand-chose par comparaison au total des patrimoines privés. Que le patrimoine public net représente moins de 1% du patrimoine national, comme au Royaume-Uni, ou environ 5% comme en France, ou même 10% en cas de très forte sous-estimation des actifs publics, n'a finalement qu'une importance limitée pour notre propos. Quelles que soient les imperfections de la mesure, le fait central qui nous intéresse ici est que les patrimoines privés constituent au début des années 2010 la quasi-totalité du patrimoine national dans les deux pays, plus de 99% au Royaume-Uni et environ 95% en France, d'après les dernières estimations disponibles et dans tous les cas nettement plus de 90%. La fortune publique dans l'histoire. Si l'on examine maintenant l'histoire de la richesse publique au Royaume-Uni et en France depuis le XVIIIe siècle, ainsi que l'évolution du partage du capital national en capital public et privé, on constate qu'il en a presque toujours été ainsi, voir graphique 3.3-3.6. En première approximation, les actifs et passifs publics et a fortiori la différence entre les deux ont généralement représenté des montants relativement limités par comparaison à l'énorme masse des fortunes privées. Dans les deux pays, le patrimoine public net a été parfois positif, parfois négatif au cours des trois derniers siècles. Mais ces oscillations comprises grosso modo entre plus 100% et moins 100% du revenu national, et généralement entre plus 50% et moins 50%, sont somme toute d'une ampleur limitée, par comparaison au niveau considérable atteint par les patrimoines privés, jusqu'à 700%, 800% du revenu national. Autrement dit, l'histoire du rapport entre capital national et revenu national en France et au Royaume-Uni depuis le XVIIIe siècle, dont nous avons résumé plus haut les grandes lignes, est en premier lieu l'histoire du rapport entre capital privé et revenu national. Voir graphique 3.5-3.6. Il s'agit effectivement d'un fait central, quoique relativement bien connu. La France, comme le Royaume-Uni, ont toujours été des pays fondés sur la propriété privée et n'ont jamais expérimenté le communisme de type soviétique, caractérisé par une prise de contrôle de l'essentiel du capital national par la puissance publique. Il n'est donc pas étonnant que la masse des patrimoines privés ait toujours largement dominé celle des patrimoines publics. Inversement, aucun des deux pays n'a jamais accumulé de dette publique suffisamment forte pour modifier radicalement l'ampleur quantitative atteinte par les patrimoines privés. Ce fait central étant posé, il convient cependant d'aller plus loin dans l'analyse, car même si les politiques publiques suivies dans les deux pays en matière patrimoniale n'ont jamais atteint ces proportions extrêmes, elles ont tout de même eu un impact non négligeable sur l'accumulation des patrimoines privés, et ce, à plusieurs reprises et dans des directions opposées. La puissance publique a eu parfois tendance à accroître l'importance des patrimoines privés, notamment au Royaume-Uni à travers l'accumulation de très fortes dettes publiques au XVIIIe et XIXe siècle, ou bien en France, sous l'Ancien Régime ou à la Belle Époque. Et en d'autres occasions, a au contraire tenté de réduire leur poids, en particulier en France, à travers l'annulation des dettes publiques et la constitution d'un important secteur public dans l'après-Seconde Guerre mondiale et à un degré moindre au Royaume-Uni à la même période. En ce début de XXIe siècle, les deux pays, comme d'ailleurs l'ensemble des pays riches, se trouvent très nettement dans une orientation du premier type. Mais l'expérience historique démontre que tout cela peut changer assez rapidement. Il est donc utile pour s'y préparer d'étudier les retournements du passé, en particulier au Royaume-Uni et en France, qui ont chacun une histoire riche et mouvementée en la matière.